Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos trois invités étant chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, municipal, le virus chamboule tout. Le second tour des municipales, qui doit se tenir le 28 juin, sera exceptionnel à plus d'un titre, comme l'a dit un candidat LREM à Paris, Gaspard Ganzer, ancien conseiller communication de François Hollande. C'est l'entre-deux-tours le plus long de l'histoire, d'autant que la raison de cette longue durée n'est autre qu'une crise sanitaire sans pareil. Le premier tour a déjà été marqué par une abstention remarquable, dont une des raisons était bien entendu la peur de la contamination. Alors, comment remobiliser et repartir en campagne? Certaines listes n'ont pas hésité pendant le confinement à continuer à travailler ensemble par les moyens numériques, à peaufiner un programme forcément transformé par les enjeux sanitaires. Mais comment toucher les électeurs sans les approcher physiquement? Grâce au big data, par les réseaux sociaux, quand il est plus possible de faire du porte-à-porte traditionnel, de grands rassemblements de campagne, ou bien encore tracter sur les marchés. Voilà les thèmes que nous allons aborder avec nos trois invités. Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, chercheur au CERAP, et auteur juste avant la crise de Municipal, quels enjeux démocratiques à la documentation française. Anaïs Thévio, qui est politiste au centre Émile Durkheim de Sciences Po à Bordeaux, responsable du programme de recherche Réenchanter la démocratie par le numérique avec un point d'interrogation, et autrice de Faire campagne sur Internet et également de Big Data électoral, Dis-moi qui tu es, je te dirai pour qui voter au bord de l'eau, c'était l'année dernière. Et Katharina Zweigel est notre dernière invitée, elle est co-directrice du think tank Décider ensemble. Bonsoir à vous trois, Rémi Lefebvre, Anaïs Thévio et Katharina Zweigel. Je vais commencer de cette émission avec vous, Rémi Lefebvre. Vous avez pris des positions très raides, pourrait-on dire, très dures vis-à-vis de ces élections municipales qui ont continué malgré la crise sanitaire pour le premier tour de ces élections. Vous avez même parlé dans un éditorial que vous avez signé à Troyes dans Libération le 18 mars, juste après ce premier tour, d'une forfaiture démocratique. Est-ce que vous pensez encore que c'est aussi une forfaiture démocratique que de continuer ces élections pour ce second tour fin juin?
Bonjour, et plus que jamais, puisque bon, ce qu'on voulait pointer dans ce texte qui a été écrit quelques jours après le premier tour, c'est-à-dire que les conditions de sincérité, de sérénité qui doit présider aux élections municipales, comme toute élection d'ailleurs, n'avaient pas été réunies, et que ces élections municipales de premier tour, qu'il faut le rappeler quand même, ont élu quasiment 85% des maires des communes, hein, donc c'est extrêmement important, ça concerne deux tiers de la population.
Avec un très fort taux d'abstention.
Voilà, avec un très très fort taux d'abstention, 20 points de plus le scrutin précédent, donc 55% d'abstention. Et quand on regarde, par exemple, dans plus finement l'ensemble de villes, on a énormément de villes où les maires ont été élus avec moins de 50% des inscrits. Dans 30 villes de plus de 50 000 habitants, c'est moins de 25% des inscrits. Si on prend, par exemple, Gérald Darmanin, l'actuel ministre du budget, il a été élu à Tourcoing avec moins de 15% des inscrits. Voilà, donc notre propos, c'était de dire que une forme de démocratie locale avait été piétinée. Alors, elle a été piétinée parce que, de manière inconsidérée, le premier tour a été maintenu. Mais je continue mon raisonnement. Je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait maintenu les élections municipales et qu'on les ait organisées à toute force avant l'été, hein, pour ne pas annuler le premier tour, conduit à nouveau finalement à une forfaiture démocratique.
C'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez pour ce deuxième tour? Parce que c'est un peu différent que le premier, tout de même.
Oui, mais concrètement, le gouvernement était confronté à un dilemme. S'il n'organisait pas les élections municipales avant l'été, comme le Conseil d'État l'avait prévenu, d'ailleurs, lui avait indiqué, on aurait dû annuler le premier tour. Et donc, pour ne pas annuler le premier tour, on organise des élections municipales avant l'été, qui n'auront pas lieu, hein, pour paraphraser un petit peu le titre de notre tribune, c'était le premier tour des élections municipales n'aura pas lieu, le deuxième tour n'aura pas lieu, parce qu'aujourd'hui, la société française qui est focalisée par la gestion de cette crise n'est pas en situation de voter de manière sereine, il n'y aura pas de campagne, on va en parler au cours de l'émission, donc s'il n'y a pas de campagne, il n'y a pas une élection authentique, hein, démocratiquement, la théorie démocratique, c'est l'idée que l'élection se fait sur la base d'une campagne. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur l'ont reconnu eux-mêmes, il ne pourra pas y avoir de campagne hors du numérique.
Mais ils ne sont pas les seuls responsables. Bien sûr, ils sont les responsables, selon vous, parce que il y a aussi toutes les forces politiques qui ont poussé à ce que ce premier tour se tienne et à ce que ce deuxième tour ait lieu avant l'été aussi, Rémi Lefebvre.
Tout à fait. Je dirais même que la responsabilité d'avoir à toute force maintenu le premier tour de l'élection municipale incombe sans doute plus aux forces de l'opposition, aux vieux partis, aux partis du vieux monde qui ont beaucoup d'élus locaux, je pense notamment aux Républicains et aux Socialistes, qui ont tout fait dans les premiers jours, dans les derniers jours avant l'élection municipale pour inciter le gouvernement à maintenir ces élections. Hein. Faut se rappeler, Christian Jacob, le leader actuel des Républicains, avait brandi le risque d'un coup de force institutionnel si ces élections qui s'annonçait comme très favorable aux Républicains, n'était pas maintenu. Voilà. Donc effectivement, il y a eu une espèce de... Notre propos, c'est de dire qu'il y a eu une sorte de réflexe corporatiste, un peu politicien, on peut même le dire carrément politicien, aujourd'hui de la classe politique, qui a été de dire il faut maintenir à toute force les élections municipales, sachant qu'effectivement, certains partis politiques, et notamment les partis bien implantés localement, comme les Républicains et les Socialistes, qui anticipaient une forte surprime au sortant, qui a eu lieu d'ailleurs.
Bah oui, qui a eu lieu tout de même. Donc,
oui. Voulait absolument maintenir ces élections. Voilà, donc tout ça nous amène à une forme de la démocratie locale est malmenée et très honnêtement, je pense qu'elle ne méritait pas d'être aussi malmenée parce qu'elle ne va pas si bien que cela. Ouais.
Je ne suis pas sûr, Katharina Zweigel, vous êtes co-directrice du think tank Décider Ensemble, vous travaillez pour faire participer les citoyens à l'élaboration des politiques publiques un peu partout en France. Je ne suis pas sûr que vous êtes d'accord avec Rémi Lefebvre parce que tout compte fait, vous avez travaillé avec d'autres à l'élaboration de politiques participatives pendant le confinement. Donc la politisation a bien existé pendant le confinement puisque des municipalités ont travaillé à la sortie de crise et même à la façon dont on devait gérer la crise alors qu'elle était très présente sur le territoire. Katharina Zweigel.
Bonjour tout le monde. Je pense qu'il y a deux choses à distinguer. D'une côté, c'est la campagne électorale pour laquelle, bien sûr, c'était difficile à continuer à travailler. En parallèle, les municipalités et surtout les équipes qui sont en place ont continué à travailler en mise en place des choses innovantes, des manières d'entraide locale, de contact avec les citoyens. Et donc, moi, je dirais plutôt que l'enjeu qui a provoqué toute cette crise, elle va au-delà des élections elles-mêmes, mais elle demande aussi quelles sont les choses que les nouvelles équipes vont mettre en place, comment ils vont adopter la démocratie locale suite à cette crise et en plus en vue d'une absentation importante pendant le premier tour des élections. Tout ce qui est renouveler les démocraties devient de plus en plus important. Donc nous, ce qu'on a vu, c'était qu'il y avait une énorme transformation ou une transformation dans certaines municipalités de leur manière de travailler, et aussi une prise de conscience qu'il faut donner plus de place aux citoyens et on va devoir travailler avec eux aussi suite à cette crise. Mais le grand enjeu, c'est est-ce que effectivement les collectivités vont transformer leur manière de faire, ce qui devient de plus en plus important s'il y a des soucis démocratiques autour des élections elles-mêmes.
Alors évidemment, Anaïs Thévio, bonsoir. Le numérique dont parle Katharina Zweigel, c'est celui de la consultation des citoyens, c'est celui de la mise en place de politiques participatives, mais le numérique sert aussi dans un contexte d'élection à autre chose. C'est ce sur quoi vous avez travaillé, en particulier dans votre livre sur les big data électorales, qui s'intitule « Dis-moi qui tu es, je te dirai pour qui voter ». C'est ce travail que les états-majors politiques, y compris au niveau des municipales, ont mis en place dès avant le premier tour, mais qu'ils ont continué pendant l'entre-deux tours et pour ce second tour, c'est-à-dire comment toucher des personnes que l'on n'a pas pu toucher traditionnellement, puisque d'autant plus que la campagne traditionnelle par le porte-à-porte, les campagnes, les meetings électoraux ne peut pas se tenir.
Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du numérique aujourd'hui pour faire campagne, mais c'est pas nouveau, enfin, au sens où ça fait quand même presque 20 ans qu'on utilise le numérique pour faire campagne. Dès les municipales de 2001, alors c'était vraiment tout neuf, mais il y avait déjà dans les grandes villes des candidats qui utilisaient Internet. Donc depuis les années 2000, les candidats ont appris progressivement à apprivoiser les dispositifs numériques, notamment pour accroître leur visibilité. Il y a un vrai enjeu de visibilité hein, pour dans l'usage du numérique, pour se faire connaître, faire parler de soi. Et au départ, c'était juste un numérique très statique. On utilisait un site internet, on allait créer un site internet pour reproduire en ligne le programme papier. Il n'y avait pas de communication spécifique. On était dans un web sans interactivité. Et au fur et à mesure, dès les régionales de 2004, on a mis en place des blogs, des outils plus interactifs pour essayer un peu de casser cette barrière entre gouvernants et gouvernés. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent comme argument dans l'usage numérique, notamment aussi dans les pratiques participatives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'adresser plus directement aux candidats ou à l'élu. Donc ça,
on crée des groupes Facebook, on est présent sur Twitter, voire sur TikTok et Instagram.
Vous avez le maire actuel de Bordeaux qui, pendant la période de confinement, donc Nicolas Florian, qui a opté pour mettre en place des Facebook Live hebdomadaires pendant le confinement. Donc il y a cette volonté d'être proche, d'une rhétorique de la proximité. Et on peut s'interroger aussi sur la gestion de cette crise, hein, sur la question aussi potentiellement de la prime aux sortants.
Bien sûr.
Puisqu'il y a une visibilité forte quand on est présent en période de confinement et c'est sur ce temps diffus de la campagne électorale. Mais voilà, il y a des outils qui se mettent en place rapidement. Je vous parlais voilà de 2007, on a aussi la plateforme Désir d'avenir, on s'en souvient, avec la candidate Ségolène Royal qui avait mis en place cette plateforme, encore une fois, pour mettre en place du participatif, de l'interactivité. En 2012, c'était les réseaux sociaux qui avaient tenu l'affiche, Facebook,
sûr.
Twitter. Aujourd'hui, on peut pas s'en passer, mais à l'époque, c'était nouveau, l'usage de Facebook et de Twitter en campagne électorale.
Et depuis, ce sont les big data qui ont pris aussi une importance considérable, c'est-à-dire ces moyens pour pouvoir analyser le tissu sociodémographique d'une ville, des quartiers, etc., qui sont descendus justement. On a connu ça pour les campagnes d'Obama, mais qui sont descendus ou de Trump, mais c'est descendu très très bas dans l'échelle électorale aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, on est passé finalement d'un web statique dans les années 2000 sans interactivité à un usage beaucoup plus stratégique, beaucoup plus millimétré des outils numériques avec les big data. C'est plus simplement des outils de communication pour se rendre visible, se faire connaître ou diffuser un programme. C'est devenu vraiment un moyen de rendre plus efficaces les campagnes électorales en ciblant certains profils d'électeurs à l'appui de bases de données. Et c'est vrai qu'en cette période de distanciation sociale, l'intérêt est encore plus accru de cibler, par exemple, les portes à les frapper, parce que c'est encore possible d'aller frapper aux portes.
Ouais.
Mais il ne s'agit pas d'aller frapper à tout va, il faut cibler les portes à frapper pour limiter finalement le nombre de portes auxquelles on va frapper et rendre ainsi la campagne plus efficace. Ça passe par des outils de big data.
Oui. Rémi Lefebvre, à l'instant même, Anaïs Théviot parlait de la primo-sortant. C'est vrai que ce long temps, c'est ce que disait Gaspard Ganzer, c'est l'entre-deux-tours le plus long de l'histoire, ce long temps entre le premier et le second tour, a laissé aussi la possibilité à tous ceux qui sont à la manœuvre, qui sont dans les municipalités, qui se représentent, de montrer qu'ils ont été les meilleurs gestionnaires sur le terrain de la crise, qui était une crise unique.
Oui, on peut penser que cette prime sortant va être plutôt renforcée par la séquence de la crise du Covid, parce que on l'a bien vu, l'exécutif, après avoir des réponses très très centralisées, c'est finalement un peu sur le modèle allemand, hein, qui s'est révélé finalement assez performant, c'est appuyé sur les collectivités territoriales, et on a vu entrer en scène à peu près à la mi-confinement les maires ont géré à la fois l'urgence.
Les masques,
commander des masques, et puis on se rentrait dans la mêlée pour préparer le déconfinement. Donc effectivement, on a vu se réactiver un petit peu la figure du maire protecteur, la figure du maire bienveillant, plein de sollicitudes sa population. Donc on peut penser que effectivement il y aura une prime encore plus accentuée. Alors cela dit, franchement, on n'a jamais vu des élections municipales de cette configuration, hein, concrètement, avec un entre-deux tours aussi long.
C'est un vrai
problème, parce que du coup, en général, hein, le principe d'une élection, c'est quand même que le deuxième tour a lieu une semaine ou deux semaines après le premier.
Pourquoi? Là, ça sera trois mois et demi. Là, ça sera trois mois et demi entre les deux.
Voilà, c'est-à-dire que concrètement, c'est important de voter au deuxième tour avec la connaissance de ce qui s'est passé au préalable. Et donc là, on a toute une série d'incertitudes très très fortes. Hein. Est-ce que les citoyens vont participer? Est-ce que les citoyens savent que dans leur commune, le maire n'a pas été élu? Hein. Faut pas. Il y a 15% des communes qui sont concernées par ce deuxième tour, 35% de la population. Concrètement, est-ce que les citoyens, alors qu'il n'y a pas, on ne parle pas vraiment des élections municipales, alors que les candidats sont pas vraiment sur le marché, est-ce qu'ils vont savoir qu'il y a des élections? Et qui va participer? On peut imaginer, il y a plein de scénarios possibles, honnêtement, c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer. Les citoyens vont peut-être renouer avec la vie démocratique, parce que ça sera une manière de ritualiser la sortie du confinement. Ils vont peut-être pas du tout participer parce que ça va pas les intéresser, ou parce qu'ils ont encore un sentiment, une perception de menace. Et puis on peut aussi penser, et ça pourrait neutraliser éventuellement, mais je dis bien, c'est vraiment tout à fait une conjecture, l'effet des maires sortantes, que par exemple les écologistes aient une prime parce que effectivement la crise du Covid a reproblématisé toute une série de questions, on l'a vu avec le transport, etc. Bon voilà, donc mais globalement il est sûr que je parie plutôt pour effectivement des maires sortants confortés après cette séquence du Covid.
Katharina Zweigel, vous êtes donc co-directrice du think tank Décidé Ensemble, vous observez et participez à ces consultations citoyennes qui se sont développées un peu partout, elles se sont développées dans des villes, par exemple, qui vont être au second tour, où il va y avoir un second tour à Strasbourg, à Lille, et qui sont des seconds tours serrés. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des initiatives qui ont été faites à Strasbourg ou à Lille de consultation des citoyens et qui ont eu un certain succès par Internet, savoir comment déconfiner, comment imaginer la métropole lilloise avec une consultation qui va durer jusqu'au 10 août, etc., etc. Toutes des questions qui sont des questions de gestion urbaine, bien entendu, mais dans un contexte particulier avec cet entre-deux-tours très long.
Effectivement, l'enjeu le plus difficile pour ces consultations, c'est les élections municipales, parce que toutes ces villes ont lancé des consultations qui vont un peu dans cet élan de l'initiative citoyenne, de renouveler la démocratie. On peut vraiment parler aussi en détail de quelques de ces difficultés de ces consultations, mais la problématique la plus importante, c'est du côté de la réserve électorale, et aussi qu'on ne sait pas qui seront les nouvelles équipes et à quel point ils vont porter ce projet.
Oui, mais c'est étrange, parce que ça veut dire qu'on fait campagne, donc à Strasbourg ou à Lille pour le second tour. Évidemment, les municipalités font campagne pendant que ces consultations ont lieu. Donc, on pourrait presque dire, il y a à la fois de l'action auprès des citoyens, certes, mais aussi quelque chose qui pourrait non pas gauchir le résultat ou transformer le résultat du second tour, mais en même temps participer à une façon d'analyser ce second tour de façon différente, Katharina.
En fait, c'est qu'on espère souvent avec ces démarches que c'est même s'il y a une nouvelle équipe qui va se mettre en place, elle va pas pouvoir complètement ignorer ces démarches et pas prendre en compte les demandes. Et donc, et aussi c'est un peu les mêmes équipes. Sert aux mêmes équipes administratives qui restent en place pour mener ces projets.
Sûr.
Mais effectivement, cela pose des problèmes au-delà d'autres problèmes que la plupart de ces consultations reposent complètement sur le numérique, et on voit quand même qu'il y a une importante fracture numérique en France. Donc il y a un problème de et d'égalité.
On va y revenir dans
toutes ces initiatives aussi.
Allez-y, continuez, terminez, Katharina Zweigel, excusez-moi.
Mais aussi les autres initiatives qui ont été faites. En fait, les municipalités se sont retrouvées dans une situation compliquée où, d'un côté, il fallait gérer la crise, proposer des alternatives, des projets aussi, tiens, répondre à cette demande de renouveler les institutions et d'autre côté, pas savoir quand le deuxième tour aura lieu.
Ah oui.
La plupart des initiatives ont été décidées et lancées à un moment où on ne savait pas encore que les élections vont avoir lieu en fin juin.
Eh bien écoutez, vous écoutez le temps du débat municipal Le Virus Chamboule Tout avec Katharina Zweigel que vous venez d'entendre, Anaïs Thévio et Rémi Lefebvre. Mais tout de suite, c'est politique des Wampas.
Je me lève pendant la nuit pour voir le soleil briller. Mes enfants écoutent Booba, ils ont le droit. Y'en a qui n'aiment pas les Smiths, d'autres qui n'aiment pas la police. Faut de tout pour faire un monde, c'est politique. C'est politique.
Emmanuel Laurentin.
On le sait depuis des années, tout est politique. C'est politique des Wampas. Vous écoutez le temps du débat. Aujourd'hui, le virus chamboule tout pour les municipales avec Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et auteur de Municipales, quels enjeux démocratiques juste avant la crise du Covid. C'était à la Documentation française avec Katharina Zweigel, co-directrice du think tank Dissider Ensemble. Avec vous, Anaïs Thévio, vous êtes politiste au centre Émile Durkheim à Sciences Po Bordeaux et vous avez écrit récemment Big Data électorale. Dis-moi qui tu es, je te dirai pour qui voter. Vous aviez commencé à suivre les élections municipales à Angers et à Blois pour ce qui concerne justement les big data, l'usage des big data dans une campagne électorale municipale, mais il n'y a pas eu de deuxième tour. Vous n'allez pas pouvoir nous dire quelle est l'importance de l'entre-deux tours dans ce domaine.
Pour en dire un peu plus peut-être sur l'usage des big data, parce qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'imaginaires associés à ce terme.
Il y a beaucoup de logiciels de stratégie électorale, je connaissais pas tous ces noms, Quorum, Explain, voilà. Spalian, Cap Collectif, Nation Building, etc., Builder, etc.
Ouais, on en a entendu parler pas mal pendant l'élection, au moment de l'élection présidentielle française de 2017. Avant, c'était déjà utilisé et surtout, c'est beaucoup utilisé aux États-Unis. En fait, c'est à partir de données agrégées qu'on va mettre en place des algorithmes qui vont déterminer des zones géographiques, des quartiers. Parce que en France, en tout cas, c'est surtout sur la base de quartiers. Et on va déterminer des quartiers où il est utile de maximiser le militantisme, car à cet endroit-là, l'électorat il serait plus favorable à être convaincu par le candidat parce qu'il serait abstentionnistes ou indécis, mais plutôt tendanciellement à aller voter sur ce, pour ce candidat. Et le les big data, au-delà de l'organisation du militantisme, ça permet aussi d'avoir une communication plus efficace, parce qu'on peut personnaliser la communication en ciblant des thèmes clés, des thèmes qui seraient intéressants pour certains électeurs qui identifiaient. Et donc l'objectif est d'essayer d'attirer leur attention pour qu'ils puissent ensuite ouvrir, tout simplement ouvrir le mail, le lire et potentiellement ensuite aller voter pour ce candidat. Donc voilà, ça s'appuie sur des données qui sont récupérées. Il y a plusieurs types de données, plusieurs types aussi de logiciels, vous en avez cité énormément, et c'est vrai que ça se développe beaucoup en France et ça permet d'avoir un usage beaucoup plus stratégique du numérique en campagne électorale.
Et ça change beaucoup de choses, Rémi Lefebvre, par rapport au traditionnel porte-à-porte, dont on a compris qu'il était difficile à faire en temps de post-Covid, ou par rapport au phoning traditionnel. Je ne savais pas qu'on avait le droit d'aller, par exemple, consulter les listes d'émargement pour connaître l'identité des abstentionnistes. Rémi Lefebvre, c'est ce qu'on fait dans certaines campagnes,
je crois d'ailleurs. Entre
les deux tours. Donc ça, c'est plutôt traditionnel. On appelle les gens en leur disant vous n'êtes pas allé voter, est-ce que vous pourriez y aller, etc., etc. Est-ce que ça change les choses de passer à ce stade quasi industriel des big data?
Écoutez, moi j'ai aussi travaillé plus modestement qu'Anaïs, mais sur ces questions, notamment le porte-à-porte numérisé. Bon, quand même, globalement, les élections municipales, alors notamment dans les villes, dans les petites villes, dans les villages, les villes moyennes, c'est traditionnellement quand même des campagnes de proximité, donc très largement fondées sur le porte-à-porte, sur les réunions publiques, les réunions de quartier, sur les interactions sur le marché. Donc, globalement, c'est clair que les big data où le numérique peut être un appui pour se substituer à ces techniques qui sont souvent présentielles, qui sont physiques, qui sont un rapport facial avec les lecteurs.
Mais je crois par exemple qu'Olivier Falorni, qui est arrivé en tête du premier tour à La Rochelle, a dit « moi je continuerai la campagne sur le terrain, je ferai encore du porte-à-porte, etc.
Ouais, »
etc.
Il y en aura sans doute, et là je pense que les élections municipales, il y a encore 15 jours. Je pense que on voit très très bien aussi que les normes de confinement se relâchent. Moi je pense qu'il y aura peut-être dans les derniers jours de l'élection municipale, dans les derniers jours avant le précédent le scrutin, peut-être un peu plus de campagne. Bon, elle sera de fait tardive, mais globalement on peut pas penser que le numérique c'est pas autour du numérique que se font les campagnes aux élections municipales traditionnellement. C'est un outil parmi d'autres, mais c'est pas l'outil principal. Bon, je remarque aussi que les candidats peuvent être présents sur les réseaux sociaux, mais globalement, les réseaux sociaux au niveau local, on sait très bien, leur limite, c'est qu'ils touchent un entre-soi plutôt de gens déjà intéressés par la politique, et ils permettent pas de toucher l'électeur profane, l'électeur qui est pas politisé, ce que permet le porte-à-porte. Et quand même sur le porte-à-porte, parce que ça c'est intéressant, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de porte-à-porte, parce que c'est vrai que c'est intrusif, le porte-à-porte déjà c'est intrusif. On a des études, les électeurs acceptent pas forcément qu'on vienne les démarcher chez eux, ou alors vont pas accepter de discuter parce qu'ils ont pas envie de s'exposer à une discussion politique. Là concrètement, le porte-à-porte il est encore plus coûteux, j'allais dire, dans un contexte où malgré tout il y a une distanciation sociale, et donc de fait la distanciation sociale elle crée de la distanciation politique et empêche la campagne. Voilà, donc globalement je pense que même s'il y aura peut-être un peu de campagne à la fin, on va avoir une non-campagne. On va avoir une non-campagne, et ça, c'est je reviens à mon point de vue de départ. C'est très dommageable, c'est dommage, et surtout que ces maires qui vont être élus vont devoir gérer dans les années qui viennent des enjeux de politique publique extrêmement importants, et qui n'auront pas forcément la légitimité élective pour affronter ces épreuves et ces controverses qui vont arriver dans les années qui viennent.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent de plus en plus de place, ils donnent de plus en plus de place, dites-vous, Rémi Lefebvre, à la démocratie participative, dont Katharina Zweigel est justement une spécialiste. Katharina Zweigel, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où on doit demander leur avis aux électeurs qui peut-être le donnent sur Internet, mais qui ne vont pas forcément dans les urnes. C'est assez compliqué pour les élus d'essayer de comprendre pourquoi des gens veulent prendre la parole, par exemple, par l'intermédiaire de tous ces outils dont on a parlé, qui permettent d'élaborer des politiques participatives, mais que par ailleurs, ils ne vont peut-être pas aller voter.
En fait, la plupart de ces outils ont été développés pour deux choses. D'une côté, élargir en fait les publics, élargir aux d'autres publics qui vont peut-être pas en réunion publique ou qui vont peut-être pas en élection, mais aussi pour pouvoir en fait dialoguer avec les citoyens au-delà des élections. Et surtout s'il y a un problème de légitimité, l'idée de inclure les citoyens à travers ces plateformes et d'autres outils de participation citoyenne, c'est exactement de trouver une légitimité sur une certaine politique ou qui est peut-être difficile, avec des choix très difficiles à prendre. Et par exemple, la convention pour le climat qui est actuellement en cours, c'est exactement un outil comme ça pour trouver un accord sur quelque chose où la politique a du mal à se mettre d'accord et d'avoir la légitimité pour le faire. Donc ces outils, ils sont plutôt...
C'est complémentaire du vote, vous voulez dire.
Complémentarité.
C'est complémentaire du vote, ça ne va pas forcément...
Exactement.
Et c'est pour plutôt l'entre-deux élections que pour justement préparer une élection.
Il y a aussi des outils qui sont utilisés pour développer la campagne électorale, le programme d'une partie politique. Mais la plupart des outils, vraiment participation citoyenne, les plateformes sur lesquelles travaillent les civic tech, des réunions publiques, des conseils citoyens, c'est pour entre les élections. Et le porteur de ces projets, c'est les municipalités, c'est l'État, et c'est pas les partis politiques.
Anaïs Thévio, tout de même, tout à l'heure, Katharina Zweigel nous en a dit un tout petit mot. Le problème de ce numérique, c'est qu'il ne, et on l'a compris par exemple dans le domaine de l'école, c'est qu'il ne touche pas tout le monde. Il y a à peu près 20-25% des gens qui ne sont pas équipés, qui ne savent pas utiliser ce numérique. C'est un problème démocratique aussi peut-être.
Effectivement, ça pose un... A priori, en fait, le numérique, quand on regarde comme ça, ça a plein d'atouts. Il n'y a pas de contraintes temporelles, spatiales. Ça peut donner la parole à tous, sans distinction. L'anonymat, on peut être plus à l'aise pour prendre la parole. Mais ça permet de rentrer dans tous les foyers, connectés en tout cas, sans aucun contact physique, ce qui est, dans cette période, à souligner. Mais effectivement, il y a quand même des oubliés du numérique. Et le ministre de l'Intérieur l'a souligné récemment, le 5 juin, il a pris la parole, il a indiqué que on pourrait pas faire une campagne exclusivement numérique, alors qu'au départ, il avait parlé, le 22 mai, de privilégier le numérique. Mm-hmm. Il a dit que ça mettrait toute une partie de la population passerait à côté. Parce qu'effectivement, comme le disait la Katharina, il y a une fracture numérique selon les territoires. Alors là, dans le cas des municipales, on a... pour 14% des communes qui sont concernées par le second tour, et ce sont principalement des communes de grandes villes. Donc on peut imaginer que l'électeur urbain est bien connecté, mais il y a une fracture qui est importante, c'est la fracture aussi générationnelle. Donc ça peut jouer de manière forte, et ce n'est pas non plus parce qu'on est connecté qu'on va aller sur un site internet ou sur une page Facebook d'un candidat. C'est difficile déjà pour les candidats d'aller capter des nouveaux électeurs, d'aller chercher des indécis, des personnes qui ne s'intéressent pas aux politiques, parce que finalement, on va rester dans un entre-soi qui est assez déjà positionné, notamment avec les réseaux sociaux. C'est encore plus amplifié avec les réseaux sociaux, parce qu'on est dans ce système, ce phénomène, c'est l'effet de la bulle filtrante. Et ça, on l'a bien vu. Moi, j'ai étudié beaucoup l'élection présidentielle, et on peut le revoir encore aujourd'hui avec la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, qui a eu vraiment un succès énorme. On en a beaucoup parlé. Mais il n'est pas passé au second tour. Ça suffit pas, en fait... ça ne touche pas, même si les vidéos sont visionnées des millions de fois, elles ne touchent qu'une partie du corps électoral.
Et puis il y a un deuxième risque à ce numérique, évidemment, et tout le monde le connaît dès qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est le trolling, ce sont ces trolls qui viennent, volontairement sur votre site ou sur votre réseau social pour pouvoir vous critiquer, changer avec des comptes anonymes de leur identité, et peut-être aussi développer des fake news, et ça peut exister aussi au niveau électoral local.
Oui, tout à fait. Alors, les rumeurs, ça a toujours existé, mais c'est énormément amplifié avec le numérique, parce qu'on a en ligne ce qu'on appelle la force du nombre. C'est-à-dire qu'on va voir que le poste va être partagé des milliers, des millions de fois, on va dire c'est pas possible que ça soit faux, et on considère que c'est vrai. Donc la force du nombre, ce partage, on va considérer que c'est vrai sans forcément croiser les sources d'information, sans aller plus loin. Et c'est vrai que ça peut avoir potentiellement des effets sur les élections. Aux États-Unis, 44% des Américains s'informent uniquement via les réseaux sociaux. En France, on n'en est pas encore là, mais en fonction du profil des électeurs, il y a quand même une information, notamment des plus jeunes, qui est assez forte sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les rumeurs peuvent toucher des élections. Je pense notamment au moment de la primaire, de la droite et du centre. On a beaucoup parlé de la rumeur autour d'Ali Juppé. Et certains ont dit que ça a pu avoir des effets. Donc voilà, c'est des éléments qui peuvent donner en tout cas une ambiance à la campagne électorale. Et ça peut jouer. Donc il y a des effets négatifs importants, hein. L'instantanéité aussi, les rumeurs, les fausses informations, la difficulté à toucher les non intéressés par la politique, ça touche pas tout le corps électoral. Et il y a aussi ce que pour ceux qui veulent s'engager en ligne, parler en ligne pour les militants, il y a aussi des effets. C'est assez difficile d'avoir un vrai débat en ligne. Parce que l'anonymat peut amener une forme de défouloir.
Rémi Lefebvre, on a commencé avec vous sur cette critique très sévère du premier tour et de l'entre-deux tours, pourrait-on dire. Vous pensez néanmoins que ceux qui seront élus et celles qui seront élues à l'issue de ce second tour, très brièvement, eh bien, il faudra qu'ils fassent un effort supplémentaire pour pouvoir affirmer leur légitimité dans leur ville?
Oui, alors pour faire le lien avec la démocratie participative, très très souvent, alors les maires développent des formes de démocratie participative, mais de manière quand même assez limitée, parce que globalement, ils se retranchent toujours autour de la légitimité du
vote. De l'élection.
Au fond, voilà, c'est l'onction du suffrage universel.
Bien sûr.
Cet argument-là ne vaut de moins en moins, parce que l'abstention a beaucoup progressé ces dernières années aux élections municipales, hein, pas seulement cette fois-ci de manière accidentelle, et il y a une tendance aussi à la baisse de la participation. Alors, il y a deux possibilités. Il y a deux scénarios.
Très brièvement,
ou bien ces maires vont être très très contestés, ils vont pas pouvoir gouverner parce qu'on leur dira tout le temps vous n'avez pas été élu, ou bien ces maires profitent finalement de ce déficit initial de légitimité pour dire bah très bien, lançons-nous dans une vraie démocratie participative et ouvrons, co-construisons les projets, co-élaborons les projets, mettons en place une vraie démocratie délibérative. On va voir un petit peu ce qui va se passer, et ça va être d'autant plus important que dans les années qui viennent au niveau local, parce qu'on sait très bien que la transition écologique se joue au niveau local, il va y avoir beaucoup de questions d'enjeux à trancher au niveau local. Voilà, donc
merci,
ça va être passionnant.
Merci beaucoup, ça sera très intéressant, ça permettrait aux profs de Sciences Po que vous êtes de continuer à faire des études sur ces questions-là. Rémi Lefebvre, je rappelle que vous êtes auteur de Municipal, quels enjeux démocratiques à la documentation française. Merci à vous, Katharina Zweigel, co-directrice du think tank Décider Ensemble, et Anaïs Thévio, dont le dernier livre s'intitule Big Data électoral, dis-moi qui tu es, je te dirai pour qui voter, c'est au bord de l'eau, c'était paru l'année dernière. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Manon Pris, Stéphanie Richer, Rémi Baille et Hugo Boursier à la technique aujourd'hui. Anthony Thomasson à la réalisation, Olivier Bétard. Vous pouvez aller sur le site de France Culture pour y lire non seulement les pages du temps des débats, mais également la conversation mondiale que nous avons lancée pendant le confinement. Le dernier texte publié, c'est celui d'aujourd'hui. C'est Marcia Tiburi, qui est philosophe et écrivaine exilée hors du Brésil. Et c'est une critique virulente du Brésil de Jair Bolsonaro. Demain, nous vous parlerons de la crise du côté des jeunes, comment éviter le péril jeune.